Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin de Nuit Info. Au menu, le phénomène météorologique La Niña a passé son pic d'intensité, mais ses répercussions devraient continuer pendant quelques mois. L'ONU se félicite de l'annonce du retour des États-Unis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et un récent rapport de l'ONU dénonce la hausse des attaques contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo en 2020. Le pic d'intensité du phénomène météorologique La Niña pour la période 2020-2021 appartient désormais au passé, selon l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Mais les répercussions de La Niña sur les températures, les pluies et les tempêtes devraient se poursuivre au moins jusqu'au mois d'avril. Jérôme Longuet.
Selon l'OMM, l'anomalie La Niña semble avoir atteint son point culminant en octobre-novembre et se classer comme un épisode d'intensité modérée. D'après l'agence onusienne, il est très probable que La Niña perdure jusqu'à février-avril. Les probabilités s'inversent ensuite, avec 70% de chances que le Pacifique tropical revienne à une situation neutre du cycle en avril-juin. La Niña a pour effet de refroidir temporairement les températures à l'échelle mondiale. Ses effets sur le temps et le climat sont en général à l'opposé de ceux de l'anomalie El Niño, qui est la phase chaude du phénomène El Niño, oscillation australe. Selon les indicateurs atmosphériques et océaniques, les conditions de La Niña sont en place depuis août-septembre 2020. Toutefois, les effets temporaires de refroidissement mondial de La Niña n'ont pas été suffisants pour empêcher que 2020 soit l'une des trois années les plus chaudes jamais constatées. Selon l'OMM, ces trois prochains mois, les températures devraient donc se situer au-dessus de la normale sur l'essentiel du globe, et l'Asie centrale, la Corne de l'Afrique, certaines régions de l'Afrique centrale devraient enregistrer des précipitations inférieures à la normale.
Les États-Unis vont renouer avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une décision prise par l'administration du nouveau président Joe Biden, 3 ans après le retrait décidé par son prédécesseur. Le secrétaire général de l'ONU a salué cette décision. Pour Antonio Guterres, l'ONU attend avec intérêt d'entendre la voix cruciale des États-Unis sur les travaux urgents du Conseil. On écoute le message qu'a adressé lundi Mark Kasser, le chargé d'affaires de la mission américaine auprès des Nations Unies à Genève, aux membres du Conseil des droits de l'homme.
J'ai le plaisir de vous informer que le secrétaire d'État, Anthony Blinken, annoncera que les États-Unis reprendront leur engagement auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en tant qu'observateur. Nous le faisons en sachant que la manière la plus efficace de réformer et d'améliorer le Conseil est de renouer avec lui d'une manière fondée sur des principes. Tout en reconnaissant les défauts du Conseil, nous savons que cet organe a le potentiel d'être un forum important pour ceux qui luttent contre la tyrannie et l'injustice dans le monde. En étant présents à la table des négociations, nous cherchons à nous assurer qu'il peut être à la hauteur de cette capacité. Les États-Unis s'efforcent toujours de faire mieux, de créer une union plus parfaite. Les premiers ordres, annonces et actions du président Biden témoignent d'un engagement fort en faveur de la diversité, de l'égalité et du respect, aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Nous avons vu de nouvelles positions importantes concernant le racisme systémique, l'immigration, le changement climatique, l'égalité des sexes et les droits des LGBT, qui trouvent toutes des échos importants ici à Genève. Il reste encore beaucoup de travail à faire.
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme est consterné par la hausse significative des attaques contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Son dernier rapport constate que près de 850 civils ont été tués par des groupes armés dans les provinces d'Ituri et du Nord-Kivu en 2020. Des meurtres notamment commis par des combattants rebelles, des forces alliées démocratiques, les ADF. Ce groupe armé, qui a son origine en Ouganda, sévit depuis plus de 20 ans dans l'est de la RDC. Les attaques perpétrées par les ADF pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, selon le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme RDC, Abdulaziz Thioy.
Entre juillet et décembre 2020, le rapport note qu'il y a eu 468 personnes qui ont été tuées, dont 108 femmes et 15 enfants tués suite à des attaques par les ADF. Donc, les attaques systématiques, le fait effectivement que ces attaques sont dirigées contre les civils de façon indiscriminée, peuvent présenter des éléments de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre de façon sexuelle. Il s'agit de violations du droit international humanitaire ou d'abus du droit international humanitaire, si vous voulez, attribuer aux groupes armés et qui, évidemment, inquiétaient les attaques. Il n'y a pas que les attaques contre les civils, il y a aussi des attaques contre des biens qui sont protégés, donc des biens culturels qui ont été attaqués et qui peuvent, de ce fait, aussi constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
Voilà, fin de ce bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même fréquence.